Du miel, des abeilles et une citadelle. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une miellerie située en plein centre-ville d'Arras sur le site classé UNESCO de la Citadelle. Rencontre avec un apiculteur en pratique bio, Alexandre Cousin.
Alors on arrive ici, là, c'est un peu la petite cabane au fond de la forêt. Hein. On est en plein centre-ville, mais en même temps, y a des arbres, il y a des chouettes, des écureuils. Et puis donc, ce petit lieu, c'était quoi en fait ici avant
Alors ici, c'est une poudrière à l'origine. C'est un bâtiment qui date du début du 19e, fin 18e, où était stockée la poudre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit des pylônes qui étaient électrifiés auparavant, parce que le bâtiment était protégé. Donc on est dans une demi-lune. Qui faisait le bout de la citadelle Vauban, c'est une sorte de triangle avec des remparts de chaque côté et des douves qui entourent ce territoire. Et il faut savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, ça a cessé d'être une poudrière et c'est devenu, on l'appelait la chambre à gaz, ce bâtiment. En fait, c'était un lieu d'entraînement pour les militaires qui s'exerçaient à résister aux lacrymogènes et aux fumigènes.
Alors on est parti pour la visite de la miellerie.
Ouais, tout à fait. Donc on va d'abord aller voir les ruches qui se trouvent à l'extérieur. Alors il pleut un petit peu, ce qui fait que on n'entendra pas le gros bourdonnement qu'on entend en temps normal ici. Parce que savoir que dans une ruche, on va avoir en moyenne 40-50 000 abeilles. Donc quand on a une quinzaine de ruches sur un site, faut faire le calcul. Mais on est à plus de 500 000 abeilles sur le site. Donc c'est vrai que ça s'entend quand les abeilles bourdonnent. Donc là, on arrive derrière le bâtiment, où on peut voir notamment la ruche vitrée, qu'on va aller voir juste après. Mais donc où les ruches sont, en fait, elles sont orientées sur le bout de la demi-lune. Alors c'est un superbe site pour les abeilles, parce qu'on a le bois qui est juste autour, donc c'est plein d'érables, de tilleuls notamment, il y a de l'aubépine, et des floraisons qui durent tout au long de l'année. Donc c'est vraiment un site où les abeilles trouvent de quoi se nourrir tout au long des différentes saisons, ce qui est un peu difficile dans la région, puisque dès qu'on s'écarte un petit peu, notamment à la campagne, au-delà du colza et de quelques floraisons, c'est vrai que les abeilles sont parfois en grosse difficulté.
Alors des ruches très, très colorées alors
Ouais, bon, on essaie. En fait, il faut savoir que les abeilles, on voit les couleurs, donc entre les ruches qui sont côte à côte, on essaie de leur mettre des couleurs un petit peu différentes, avec des formes qu'elles reconnaissent, pour qu'en fait il n'y ait pas de dérive et que les abeilles rentrent bien dans leur propre ruche. Alors du coup, c'est vrai qu'on s'amuse un petit peu, hein, avec les couleurs des ruches, avec bien entendu des peintures qui sont naturelles et avec des colorants uniquement naturels, puisqu'on est en pratique bio et biodynamique de l'apiculture.
On va en reparler après, mais avant ça, tu parlais un petit peu des difficultés des abeilles. Hein, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Les abeilles en danger en France, et puis qui trouvent peut-être de nouveaux foyers, plutôt en ville que à la campagne en fait.
Ouais, les abeilles sont en grosse difficulté, alors que ce soit en France, en Europe, dans le monde d'une manière générale. Pour plusieurs raisons, c'est peut-être bien d'y revenir, mais il faut savoir que bon, il y a l'action humaine, hein, avec les pesticides dans les zones de grande culture qui font des ravages et qui posent de gros problèmes, avec un parasite qui s'appelle le varroa, qui se fixe sur l'abeille, qui équivaudrait, si on avait le même parasite à taille respective, à un lapin qui nous pomperait le sang, donc qui transmet des maladies aux abeilles et qui diminue sa durée de vie. Et avec également un autre phénomène qui est quand même assez dramatique, c'est en fait la pauvreté végétale. C'est-à-dire quand on va un peu dans nos campagnes, alors c'est flagrant dans le Nord-Pas-de-Calais, mais il n'y a plus de haies, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien, très peu d'arbres dans les campagnes, ce qui fait que les abeilles, passées le colza ou quelques floraisons, ne trouvent plus rien. Et donc c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation qui est aberrante, où les abeilles se plaisent mieux en ville désormais qu'à la campagne, d'une manière générale, enfin en tout cas dans la campagne du Nord-Pas-de-Calais. Et c'est vrai que c'est une situation qui est complètement paradoxale.
Alors là, tu viens de te rapprocher de la ruche, et il y a même une abeille qui est venue sur ton doigt. C'est pas dangereux? Enfin, comment ça se passe? Toi, t'as un équipement aussi de protection ou tu t'es déjà fait piquer? Comment ça se passe?
Ouais, ben on se protège un petit peu. Alors, on se fait piquer hein, régulièrement. C'est un peu... Ce serait difficile en étant apiculteur de ne pas se faire piquer, mais bon, le tout c'est de ne pas être allergique. Alors il y a des personnes qui le sont, mais c'est sûr que ce serait un peu délicat en étant apiculteur. On se protège, alors là aussi on sait que plus il va faire chaud, plus il va faire beau, plus les abeilles vont être calmes. Parce qu'en fait les abeilles qui défendent un petit peu la ruche, c'est les abeilles les plus vieilles, les butineuses, qui en fait quand il fait beau sont en train de s'occuper à butiner un petit peu partout. Donc si par exemple on ouvrait là sous la pluie, ce serait une ouverture un petit peu... folklorique, on aurait quelques abeilles, un certain nombre d'abeilles qui viendraient tenter de nous piquer.
Donc là, on va éviter alors.
On va éviter, c'est pour ça qu'on va, on va pas le faire là sous la pluie. Mais voilà, en fait, on comprend aussi et on parvient à connaître, disons, les conditions qui permettent d'ouvrir très bien. C'est pour ça qu'on a différents types de protection. On a une petite voilette uniquement sur le visage. Après, on a des combinaisons, des vareuses à mi-corps et puis parfois des combinaisons complètes qu'on utilise très rarement. La plupart du temps, je mets que le voile sur le visage et les mains, on les laisse. On manipule beaucoup mieux les cadres mains nues qu'avec des gros gants qui sont un petit peu peu délicats.
Il y a des gens qui habitent bon, pas très loin, peut-être 100-200 mètres. Quand ils voient débarquer bon, un certain nombre de ruches comme ça juste à côté de chez eux, il peut y avoir peut-être une petite inquiétude. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une autorisation ou quel rapport tu as avec tes voisins?
Alors, globalement, en fait, il y a beaucoup de compréhension par rapport à l'abeille. En fait, c'est vrai qu'il y a un peu de peur hein, parce que c'est un insecte qui pique. Il y a des peurs un petit peu ancestrales sur ce type d'insecte. Mais il y a eu tellement de battages médiatiques sur la disparition de l'abeille que désormais tout le monde est content quand même de savoir qu'il y a des ruches à proximité de chez soi. Alors sur les conditions en fait d'autorisation sur l'installation des ruches, vous savez, moi j'ai des ruches en plein centre-ville dans des jardins qui sont parfois très petits. Il faut savoir en fait qu'il suffit d'avoir une haie de 2 mètres de haut pour qu'en fait il n'y ait aucune distance de sécurité qui soit autorisée. Alors le mieux c'est quand même bien entendu d'aller voir les voisins, de leur expliquer un petit peu comment ça se passe. Et au final il n'y a jamais de problème. Quoi. On peut tondre à proximité d'une ruche, il n'y a pas... Le tout c'est quand même que ce soit pas accessible pour que quelqu'un fasse pas tomber une ruche sans faire attention. C'est notamment pour ça que pendant le Main Square faut être assez vigilant et enlever toutes les ruches, parce que si quelqu'un on va dire alcoolisé passait à proximité d'une ruche, faisait tomber même en pleine nuit, ce serait peut-être un peu délicat pour lui. Donc en tout cas il faut vraiment que les ruches soient pas accessibles à des enfants, des personnes qui pourraient les faire tomber. Mais au-delà de ça on installe ça très bien et il n'y a aucun problème.
Suite de notre visite de la miellerie de la Citadelle, toujours en compagnie de son apiculteur Alexandre Cousin.
Tout à l'heure, tu parlais d'apiculture biologique. Alors, bon, ici, on est quand même un espace un peu protégé, mais quand même en plein centre-ville. Mmh. Alors, comment ça se passe pour avoir du miel bio? Parce que, bon, on ne sait jamais vraiment où l'abeille va aller prendre le pollen, quoi.
Alors, tout à fait. Il y a deux choses. Premièrement, il y a le périmètre d'action de l'abeille qui en effet là pose problème, puisque l'abeille va butiner sur 3 km donc, autour de sa ruche. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, trouver des zones, puisqu'en bio on doit avoir 50% d'un périmètre qui soit non cultivé ou soit cultivé en bio, c'est parfois très difficile dans le Nord-Pas-de-Calais. Et en fait moi je suis en pratique bio et biodynamie. Et j'ai pas le label bio, puisque pour l'instant sont exclus du label bio l'urbain. C'est pour des raisons pratiques qui faisaient qu'il y a 10 ans encore, il n'y avait aucun agriculteur en périurbain ou en urbain, et que l'apiculture n'était pas du tout en urbain. Donc il y a des discussions au niveau du label écossaire sur la présence de la ville, bon, c'est en discussion. Nous, en tant qu'apiculteurs, quand on est en pratique bio-biodéméter, alors il y a des choses qu'on fait. Hein. C'est, premièrement, les ruches sont uniquement en bois. On exclut complètement le plastique. La cire qu'on utilise, c'est de la cire bio, puisque là aussi, il faut savoir que la cire dans la ruche, c'est l'élément qui va le plus emmagasiner les polluants. Et donc, il faut avoir à la fois une cire de qualité et à la fois changer très régulièrement ces cadres. Donc nous, on change globalement tous les 2 ans les cadres de nos ruches, ce qui permet aux abeilles de refaire leur propre cire et d'évacuer les polluants. Alors cette cire, nous, on va la fondre dans un sérificateur solaire, qui est un four solaire en fait, qui fonctionne avec l'énergie du soleil. C'est une boîte métallique avec un double vitrage qui fait fondre la cire des vieux cadres. Alors nous, cette cire, celle-ci, on la réutilise pas pour faire des cadres, on fait des bougies avec. Comme ça, on fait un autre produit directement issu de cela. Les peintures qu'on utilise, on l'a dit tout à l'heure, sont des peintures naturelles. Alors soit on l'a fait nous-mêmes, comme la peinture un peu ocre, qui est la recette de la peinture scandinave suédoise. Les autres, quand c'est des couleurs un petit peu plus vives, il y a des fabricants de peintures complètement naturelles pour les ruches. Ensuite, alors sur les traitements, parce qu'on a parlé du varroa tout à l'heure, mais il y a des traitements qui sont homologués en bio et d'autres qui ne le sont pas du tout. Alors pour le varroa, nous, on utilise uniquement soit des huiles essentielles, soit des traitements à base d'acide formique, qui est l'acide qui est produit par les fourmis, en fait. Et c'est pour ça que quand on a des fourmilières sur le dessus des ruches, on les laisse tout le temps. En fait, elles viennent profiter de la chaleur et parfois un peu des débris de cire que les abeilles laissent. Mais en produisant de l'acide formique, on voit qu'il y a un peu moins de varroa que dans celles qui n'en ont pas. Donc sur les traitements, là aussi, on utilise des produits qui n'ont aucune rémanence dans la cire, dans le miel, parce que c'est extrêmement important. On a avec les abeilles un produit extraordinaire qui est créé, le miel, et il faut absolument faire que ce produit soit le plus sain possible et que nous, en tout cas, on n'impacte pas sur sa qualité.
Alors justement, parce que là on est quand même en centre-ville, bon, il y a des bagnoles qui sont quand même à, je sais pas, 100 mètres, ouais. 100 mètres d'ici. Est-ce que les polluants des voitures, on les retrouve aussi dans le miel, dans les mielleries urbaines ou...
Alors quand on fait analyser le miel, on ne trouve pas de traces de ces métaux lourds qu'on pourrait trouver parfois en ville, de polluants volatiles issus des gaz d'échappement. On retrouve pas ces traces-là. On retrouve des traces souvent... Je parle des traces qu'on peut retrouver externes dans le miel. On va retrouver des traces d'anciens pesticides ou de nouveaux pesticides en ville ou ailleurs. Beaucoup moins en ville qu'à la campagne, en zone de très grande culture. On va retrouver, quand certains apiculteurs utilisent des produits chimiques pour le traitement du varroa, on va retrouver parfois ces traces dans le miel. Pour l'instant, on retrouve pas on n'est pas capable sur une analyse de dire ça c'est du miel de ville, parce qu'il y a vrai un polluant de type plomb ou je ne sais quel polluant qu'on pourrait trouver dans les analyses. Pour l'instant, on ne trouve pas. Heureusement pour nous, il faut rappeler quand même que les abeilles permettent 30% de notre alimentation, hein, les abeilles et les pollinisateurs. Heureusement pour nous, elles ont un système de digestion, de traitement externe des polluants, de ce qu'elles assimilent, qui est colossal, parce qu'elles ont à la fois un estomac et elles ont à la fois ce qu'on appelle un jabot, qui est une deuxième poche intérieure qui leur permet de stocker du miel ou du nectar et de régurgiter, le tout à chaque fois étant filtré plusieurs fois. Ce qui fait qu'en fait l'abeille résiste très bien malheureusement aux différentes attaques que notre mode de vie lui procure en permanence, et que pour l'instant elle résiste, ce qui est étonnant vu que dans certains secteurs elle se prend de plein fouet, mais elle résiste. Et en plus elle filtre tout ça.
En plus de ce projet de production de miel, c'est aussi une miellerie pédagogique. Donc c'est le projet d'ouvrir aux écoliers, lycéens, étudiants.
Tout à fait. Alors on est encore en phase un peu test, parce qu'on a accueilli quelques classes, mais on n'a pas encore généralisé, notamment parce que les travaux n'étaient pas terminés. Mais c'est vrai que ce site, il est tellement extraordinaire en ville, avec une biodiversité, un cadre qui est exceptionnel. Donc on veut en profiter pour faire de la pédagogie, alors à la fois autour des scolaires, puisque c'est très important, et puis ça permet de faire de la biologie, de faire de l'initiation à l'environnement, de la connaissance des espèces et compagnie. Donc c'est une très bonne chose, donc on met ça en place. Alors ce que je disais, on l'a fait plusieurs fois cette année. C'est vrai qu'à partir du printemps prochain, on va vraiment généraliser en accueillant au moins une fois par semaine des classes du secteur. Ça permet aussi aux classes de venir à pied, ce qui est quand même intéressant, tout en combinant avec parfois des visites historiques de la citadelle, ce qui fait deux axes très différents. Donc ça, on le fait également pour les groupes. Alors là aussi, hein, on le fait qu'en étant prévenu, parce que c'est vrai qu'on est régulièrement sur nos différents ruchers, donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui passent et qui voient que c'est fermé, mais c'est vrai qu'on ne fait pas uniquement de l'accueil, c'est un métier agricole et on est soumis à du vivant, donc on passe d'un rucher à l'autre pour ouvrir. Savoir que les ruches, on les ouvre une fois par semaine pour vérifier bien entendu que la reine est présente, que la ponte est bonne, qu'il n'y a pas de maladie et que les provisions sont en quantité suffisante. Donc c'est vrai que c'est un vrai métier d'élevage qui nécessite beaucoup de temps. Alors qu'à l'ancienne, hein, c'est vrai que connaissant d'anciens apiculteurs, il y a encore 40 ans, il suffisait d'avoir une ruche, de poser une hausse dessus et de venir 4 mois après récolter, c'était bon. Aujourd'hui, avec le varroa qui pénalise énormément les colonies, on ne peut plus on ne peut plus pratiquer cette apiculture à l'ancienne. On est vraiment obligé de suivre de très près l'élevage et le suivi des colonies.
Une abeille, un jour de printemps, vole-t-elle, vole-t-elle gaiement sur la rose bruyère en fleurs, dans si douce l'odeur.
Parce qu'on parlait d'histoire, toi à la base, tu as un cursus universitaire d'historien, spécialiste de Robespierre, de la Révolution française. Qu'est-ce qui t'a amené finalement vers l'apiculture, quoi ?
Bah moi, le gros changement, ça a été mon engagement écolo-environnementaliste, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fort, mais je trouvais que la traduction professionnelle, la traduction dans les actes, elle n'était pas toujours très évidente. Et c'est vrai que l'apiculture, ça a été un déclic il y a 5 ans maintenant, et ça a été évident que c'était la voie que je devais prendre. En plus, je trouve qu'on est dans une société où on a besoin d'un retour à l'essentiel, à la nature, à la production de ses mains, à la connaissance des choses. Et là, pour le coup, c'est vrai que je me suis retrouvé immédiatement dans cette activité qui mêle un petit peu tout ça.
Alors, tu t'as cheminé plutôt vers prof ou chercheur en histoire. Bon, là, tu as quand même une partie enseignement aussi
Bon, je reste enseignant donc en histoire, hein, qui est ma formation de base. C'est vrai que j'avais fait des recherches sur Robespierre et son frère notamment, au lycée agricole, donc ce qui crée aussi un petit lien. Et puis parce que bon, c'est aussi l'enseignement, ça reste un métier passionnant et je le fais parce que ça se passe très bien, que j'ai beaucoup de plaisir à enseigner l'histoire malgré tout, tout en sachant que je ne ferai pas ça pendant 20 ans.
Justement, puisque tu parlais de ton engagement politique, tu es quand même une figure importante et connue sur Arras au niveau de l'implication politique et même sociale, hein, puisque tu étais dans les mouvements étudiants début des années 2000. Ici, au cœur de la citadelle d'Arras, on va dire pilotée par la communauté urbaine d'Arras, quand ils t'ont vu arriver avec ton projet de miellerie, on peut se dire, c'est pas évident comme lien, quoi. Alors comment ça s'est passé un peu hein?
Bah, ça a été, c'est sûr que c'est pas évident, hein, même pour moi à la base, de proposer ça de cette manière, mais bon, on va dire que là c'était du bon sens, quoi. On a un site qui se prêtait excellemment bien à la présence de ruches, d'un site potentiellement pédagogique autour des abeilles. C'est un site, la citadelle d'Arras, qui est classé patrimoine mondial UNESCO, qui doit devenir un vrai lieu de vie avec des activités artisanales, des activités où on fait vivre, hein, ce site qui a fourmillé au 18e, 19e siècle, alors de militaires, mais bon, ça doit rester un lieu vivant. Donc je l'ai fait parce que, bien entendu, je pensais que c'était un projet qui était très pertinent, et je pense qu'eux également ont vu que c'était un projet qui était pertinent, puisque cette citadelle, elle est aussi... C'est vrai qu'on pense souvent à la citadelle minérale Vauban. Il y a quand même tout un bois derrière qui accueille une biodiversité qui est en ville extraordinaire. C'est vrai que c'est rare d'avoir une ville de 40 000 habitants où on peut trouver des chevreuils quasiment aux portes des boulevards, ce qu'on voit. Et ça, c'est une vraie chance pour les enfants, pour tout le monde, de pouvoir accéder à ces choses-là de manière aussi simple. Donc je crois que ça s'est fait en bonne intelligence, parce que le projet était pertinent et qu'il y avait nécessité et que c'était important pour la CUA de mettre ça en valeur.
Ça pose aussi des questions sur le développement, parce qu'après, bon, on parle de construction de quartiers, de logements. Bon, il n'est pas dit que toute cette biodiversité, finalement, soit protégée ad vitam aeternam, quoi.
Il faut être très vigilant. Je crois que là aussi, c'est les habitants qui doivent en avoir conscience. On a un site qui est extraordinaire. Il faut à la fois le protéger, à la fois le faire évoluer, mais c'est sûr que l'aspect biodiversité de ce site est essentiel et que chaque nouveau projet doit bien prendre en compte cette thématique, et c'est pas toujours le cas. Enfin, je prends le cas du Main Square Festival, c'est vrai qu'au-delà du fait que ce soit un tremplin énorme pour la ville d'Arras, ce festival qui commence à être connu nationalement, il y a quand même des questionnements sur le site, sur les dégradations qui, vous l'avez vu en arrivant, hein, dégradations qui sont quand même importantes, que ce soit sur la Green Room et ailleurs. Donc il faut réfléchir à ce que la vie de la citadelle soit en bonne harmonie avec l'aspect biodiversité de cette citadelle.
Alors le Main Square, est-ce que les abeilles apprécient David Guetta? Qu'est-ce que tu dois faire, toi, quand le Main Square débarque?
Je dois en fait transhumer toutes les ruches par précaution. Je suis obligé de toutes les bouger avant le Main Square. Alors, elle pourrait peut-être bien passer la chose, mais bon, quand même, on est sur un festival qui dure 4 jours. Les abeilles, en dire les sons, ce serait pas tant le problème. Le vrai gros souci, c'est les vibrations. Et on sait que les décibels sont tellement élevés qu'on a des vibrations. Et donc, les abeilles pourraient à la fois être pénalisée elle-même, mais en plus aller dire bonjour de manière un peu agressive aux différents festivaliers, ce qui ça créerait de l'animation, mais je crois pas que ça plaise à tout le monde. Et puis je crois surtout que j'ai pas envie d'être incarcéré le lundi après le festival, parce que des abeilles auraient complètement fait le chambard sur le festival.
Une petite piqûre à David Guetta, ça lui ferait peut-être du bien.
Ça aurait permis d'arrêter le concert un peu plus tôt. J'y suis pas allé, hein, je viens de préciser, mais c'est vrai que parfois ça ferait du bien à certains chanteurs que ça s'arrête assez vite.
Dernière partie de notre entretien avec Alexandre Cousin, apiculteur à la citadelle d'Arras.
Donc ici, tu as un certain nombre de ruches. Combien de ruches à peu près, tu disais?
Alors là, il y en a 15 qui sont sur le site de la citadelle. En tout, là, j'ai 70 ruches, alors qui sont chez des agriculteurs en bio à Gavrel, à Grand-Rulcourt notamment. J'ai un site dans les marais de Fampoux, puis quelques autres ruchers dans la CUA à Saint-Laurent-Blangy aussi, un partenariat avec la mairie. Sur le goût, on va avoir à la citadelle un miel qui va être un peu plus corsé. On sent l'arbre, on sent un miel qui est un petit peu plus fort, même quasiment un petit peu poivré au goût, alors que le miel de printemps de Fampoux, Arras, Achicourt, qui est la dominante Fampoux quand même, va être beaucoup plus sucré, doux. Donc un miel souvent que préfèrent un peu les enfants qui commencent à apprendre à goûter le miel, alors que les amateurs de miel un peu corsé vont préférer le miel de la citadelle qui est plus boisé.
Comment tu le manges, toi, ton miel?
Alors peut-être surtout petit conseil, en fait, c'est souvent on a l'habitude de tremper sa cuillère de miel dans la tisane pour sucrer. En fait, il vaut mieux ne pas faire ça, parce qu'en chauffant le miel, le miel va perdre ses vertus, ses vitamines, et donc en fait il vaut mieux, par exemple, prendre la cuillère de miel avant de prendre sa tisane, tout en gardant le goût sucré dans la bouche, plutôt que de faire chauffer ce miel. Sinon, des recettes, alors là, pour le coup, les recettes, en tout cas, on fait souvent quand même chauffer le miel, hein, que ce soit le poulet, que ce soit le canard, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de recettes autour du miel, alors que ce soit aussi les pâtisseries orientales, hein, qui sont toutes très bonnes. On se met aussi, là, on en aura un petit peu pour cette saison, on se met à l'hydromel, là, donc on aura une cinquantaine de bouteilles d'hydromel cette année. Qui est aussi l'alcool traditionnel et le premier alcool sans doute qui a été réalisé par les hommes. Parce que c'est très simple, c'est le miel et l'eau qui automatiquement fermentent et donnent cet alcool, l'hydromel.
Alors si on veut s'en procurer, comment ça se passe? Alors il faut venir prendre rendez-vous, il y a des heures d'ouverture
Alors à partir de cet été, en fait, on ouvre tous les premiers samedis du mois. Donc le matin de 8h à 12h. Et bon, on va être sur les marchés, c'est pour ça que je préfère pas encore, parce que moi j'aimerais bien être sur le marché du riz, on est en discussion à ce niveau-là. Ensuite, il y a le site internet ou les adresses mail, mais c'est vrai que le but, c'est quand même de faire les marchés. Je préférerais faire un petit marché. Pour l'instant, je suis encore sur des productions qui sont, on va dire, modestes, pour faire le marché tout au long de l'année, plutôt que de faire un gros marché qui ferait que je vende quasiment tout en quelques semaines. Parce que pour le principe, je préfère être présent sur l'année.
Un pot de 500 grammes, ça vaut combien alors ?
Alors, les pots de 500 grammes sont à 8,50 euros. Aujourd'hui, moi, je préférerais vendre mon miel moins cher. Pour l'instant, je ne le peux pas. Et quand même, en fait, il faut savoir que la France ne produit absolument pas en quantité. C'est-à-dire qu'on produit entre 30 et 40% du miel qui est consommé en France. Et en plus, on va vers une diminution de cette proportion. Donc, la tendance, quand même, va vers un produit miel qui va être de plus en plus cher. C'est malheureux parce que c'est vrai que c'est important que tout le monde puisse consommer des miels de qualité. Mais peut-être, comme dans certains autres domaines, il est préférable de manger moins de viande, mais de la viande de qualité dans des élevages qui respectent l'animal, bah, il faut peut-être manger un peu moins de miel et manger du miel de qualité qui ne soit pas issu de grandes surfaces où on coupe des miels avec du miel issu d'élevages et de pays où on fait du miel complètement industriel.
Alexandre Cousin, apiculteur à la citadelle d'Arras, a noté que le miel d'été est arrivé malgré un mois d'août assez exécrable. Vous pourrez déguster ce miel ce samedi, donc ce samedi 6 septembre, portes ouvertes de 9h à midi à la miellerie. Alors pour vous y rendre, si vous passez par la porte principale de la citadelle, il faut vous diriger tout de suite vers la droite, pas loin de l'ancien terrain de foot. Alors vraiment, allez-y parce que le lieu est super sympa, c'est très bien retapé. La démarche citadelle, c'est vraiment très intéressant, et puis le miel est très bon, ce qui ne gâche rien.